Chapitre 17. La prière du Seigneur. Le ministère de grâce de Christ aux yeux du monde est terminé. Ses entretiens pleins d'amour avec les disciples ont pris fin. Tout, sur la terre, étant achevé, le Seigneur regarde vers le ciel, vers cette maison dans laquelle il va si prochainement entrer. Nous avons écouté les paroles du Seigneur lorsqu'il parlait du Père à ses disciples. Maintenant, nous avons le privilège plus grand d'écouter les paroles du Fils alors qu'il parle de ses disciples au Père. Cette prière se distingue de toutes les autres en raison de la personne glorieuse qu'il exprime. Qui, sinon une personne divine, pourrait dire « afin qu'il soit un comme nous » verset 11, et encore « afin qu'eux aussi soient un en nous » verset 21. De telles déclarations ne pourraient jamais provenir de lèvres humaines. Nier la déité de sa personne, et ces mots deviendraient les blasphèmes d'un imposteur. Cette prière se signale aussi par son caractère unique. On a fait remarquer qu'elle ne comportait aucune expression de confession, nul écho même lointain d'un aveu de péché, pas un accent marqué par un sentiment de démérite ou d'imperfection, aucune reconnaissance d'infériorité, ni d'appel au secours. Nous sommes en outre arrêtés par son étendue. Nous écoutons quelqu'un qui parle d'une éternité avant la fondation du monde, comme ayant eu part à ce passé glorieux. Nous l'entendons parler de sa marche parfaite sur la terre. Nous sommes conduits jusqu'au jour apostolique par quelqu'un pour qui le futur est un livre ouvert. Nous écoutons des paroles qui embrassent toute la période du pèlerinage de l'Église sur la terre, et nous entendons les désirs du Seigneur pour ceux qui croiront en lui par les paroles des apôtres. Enfin, nous sommes transportés en pensée dans une éternité encore à venir lorsque nous serons avec Christ et comme Christ. Et tandis que nous écoutons ces épanchements du cœur du Seigneur, nous sentons que, s'il est encore question de notre passage à travers le monde, nous sommes néanmoins transportés au-delà des choses passagères du temps pour contempler les choses immuables de l'éternité. Malgré leur importance, ni le lavage des pieds si nécessaire, ni le fait béni de porter du fruit, ou le précieux privilège de rendre témoignage et de souffrir pour Christ, ne sont proprement en vue ici. Mais il s'agit plutôt de ces choses si grandes qui, tout en pouvant être connues et goûtées dans le temps, appartiennent à l'éternité. La vie éternelle, le nom du Père, les paroles du Père, l'amour du Père, la joie de Christ, la sainteté, l'unité et la gloire sont des choses éternelles qui subsisteront lorsque le temps, avec la nécessité du lavage des pieds, les occasions de service, les épreuves et les souffrances, aura passé à jamais. Enfin, en écoutant cette prière, nous découvrons les désirs du cœur de Christ, de sorte que le croyant peut dire « Je connais les désirs de son cœur pour moi ». Il doit en être ainsi, car la prière parfaite est l'expression du désir du cœur. Hélas, quant à nous, nos prières peuvent souvent devenir une pure forme et, comme telles, exprimer seulement ce que nous souhaitons que les autres prennent pour le désir de notre cœur. Nul élément de cette nature n'entre dans cette prière. Tout y est aussi parfait que celui qui prie. Dans sa prière, le Seigneur présente plusieurs requêtes au Père, mais elles peuvent toutes être groupées sous les trois désirs principaux qui en constituent les grandes divisions. Premièrement, le désir que le Père soit glorifié dans le Fils, versets 1 à 5. Deuxièmement, le désir que Christ soit glorifié dans les saints, versets 6 à 21. Troisièmement, le désir que les saints soient glorifiés avec Christ, versets 22 à 26. Versets 1 à 5, le Père glorifié dans le Fils. Citation de l'Écriture. Jésus dit ces choses et leva ses yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Fin de citation. Chaque expression et chaque requête dans les 5 premiers versets du chapitre 17 a en vue la gloire du Père. Où que le Fils soit vu, que ce soit sur la terre, dans le ciel ou sur la croix, entre terre et ciel, son premier et grand désir est de glorifier le Père. Une telle pureté de motif dépasse ce que l'homme déchu peut concevoir. La pensée naturelle est de se servir de la puissance, quelle que soit la forme qu'elle puisse revêtir, pour se glorifier soi-même. Telle était la pensée des frères de Jésus selon la chair lorsqu'ils disaient « Si tu fais ces choses, montre-toi au monde toi-même. » Chapitre 7, verset 4. Qu'est-ce, sinon dire pratiquement, fais usage de ta puissance pour te glorifier toi-même. Hélas, l'histoire ne montre-t-elle pas que chaque fois que le pouvoir est confié à un homme, que ce soit par Dieu ou par ses semblables, il s'en sert pour se glorifier lui-même? Après avoir été investi du pouvoir, le premier chef des nations précipite sa chute en disant « N'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Daniel 4, verset 30. Tout le ciel peut bien s'unir pour proclamer « Digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance. » Car lui seul se sert de la puissance pour la gloire de Dieu et la bénédiction de l'homme. Le Seigneur désire une gloire infiniment plus grande que celle que le monde peut offrir, car il dit « Glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et c'est de cette gloire suprême qu'il désire glorifier le Père. L'autorité lui avait déjà été donnée sur la terre, déployée lors de la résurrection de Lazare et utilisée pour la gloire de Dieu, comme il le dit au sépulcre « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Chapitre 11, verset 40. Le Seigneur demande maintenant une gloire qui soit proportionnée à sa puissance. L'autorité lui avait été donnée sur toute chair, afin qu'il glorifie Dieu en accomplissant ses conseils. Dans ce monde, nous voyons la puissance terrible de la chair animée par Satan. Toutefois, pour notre consolation, nous apprenons par cette prière qu'une autorité au-dessus de tout autre a été donnée au Seigneur, de sorte qu'aucune puissance de mal, si grande soit-elle, ne peut empêcher Christ d'accomplir les conseils de Dieu pour donner la vie éternelle à tous ceux que le Père a donnés au Fils. Cette vie trouve son expression la plus élevée dans la connaissance et la jouissance de notre relation avec le Père et le Fils. Elle n'est pas, comme la vie naturelle, limitée à la connaissance et à la jouissance des choses naturelles et des relations humaines. Elle n'est pas confinée à la terre ni liée au temps ou terminée par la mort. C'est une vie qui nous rend capables de connaître la communion avec les personnes divines et d'en jouir. Elle nous transporte en dehors du monde, au-dessus de la terre, au-delà du temps et dans les régions de la gloire éternelle. Mais si le Seigneur désire glorifier le Père dans la nouvelle place au ciel, il l'a déjà fait dans sa marche sur la terre et dans ses souffrances sur la croix. Qui d'autre que le Seigneur pourrait lever les yeux vers le ciel et dire au Père « Moi, je t'ai glorifié sur la terre. » Hélas, l'homme déchu a déshonoré Dieu sur la terre. L'homme a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu pour être un vrai représentant de Dieu devant l'univers. Toutefois, maintenant que l'homme est tombé, si le monde devait se former ses propres idées sur Dieu en partant de l'homme, la conclusion serait que Dieu est un être impur, égoïste, cruel et vindicatif, sans sagesse, ni amour ou compassion. Telle est en fait la terrible conclusion à laquelle les païens sont parvenus, en présumant que Dieu est quelqu'un de semblable à l'un d'eux. Ainsi, ils se sont fait des dieux qui, comme eux-mêmes, sont corrompus, cruels et égoïstes. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible. Et, au lieu de glorifier Dieu, en étant une fidèle représentation de Dieu, l'homme a déshonoré Dieu sur la terre. Mais lorsque nous nous tournons de l'homme déchu vers l'homme Christ Jésus, le Fils, nous voyons quelqu'un qui, à chaque pas de son sentier, a glorifié Dieu. À sa naissance dans le monde, l'armée céleste a pu dire en contemplant son Créateur « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Maintenant, à la fin de sa course, le Seigneur peut déclarer « Moi, je t'ai glorifié sur la terre ». Il a pleinement révélé le caractère de Dieu et pleinement revendiqué tout ce qui était dû à Dieu. Il a maintenu sa gloire devant tout l'univers. En Christ, Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, aussi bien que des hommes. Plus encore, Christ n'a pas seulement glorifié Dieu dans sa marche sur la terre, mais par-dessus tout, il a glorifié Dieu sur la croix. En effet, il peut dire « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Là, il a revendiqué la justice de Dieu en relation avec le péché et manifesté l'amour de Dieu envers le pécheur. Christ parle ici selon l'humanité parfaite qu'il avait prise. Comme homme, il avait glorifié Dieu et achevé l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire. En tant que croyant, notre privilège est de marcher comme lui a marché, d'être ici-bas pour la gloire de Dieu et d'achever l'œuvre qui nous a été confiée, sans toutefois jamais oublier que l'œuvre qu'il est venu accomplir à la croix doit à tout jamais demeurer unique. Nul, sinon le Fils, ne pouvait entreprendre et achever une telle œuvre. Au verset 5, nous sommes admis à entendre des requêtes auxquelles aucun homme ne peut être associé, car ici le Seigneur parle comme Fils éternel et présente des demandes qui ne peuvent être la part que de quelqu'un qui est Dieu. D'abord, le Seigneur peut dire « Glorifie-moi, toi, Père ». Certes, nous pouvons désirer être revêtus de nos corps de gloire afin que Christ soit glorifié en nous. 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Et par conséquent demander « Glorifie Christ en moi ». Mais qui, sinon une personne divine, pourrait dire « Glorifie-moi ». Deuxièmement, sa prière s'élève à un plan supérieur, car le Seigneur ajoute « Auprès de toi-même ». Seul le Fils éternel, qui est dans le sein du Père, pouvait demander une gloire égale à la gloire du Père. Celui qui parle ainsi revendique l'égalité avec le Père. En outre, quand le Seigneur poursuit en parlant de « la gloire que j'avais », il demande une gloire qu'il possédait dans l'éternité comme personne divine. Non pas une gloire qu'il a reçue, mais une gloire qu'il avait. Puis il peut dire « la gloire que j'avais auprès de toi ». Expression qui implique qu'il était non seulement une personne divine, mais aussi une personne distincte dans la déité. Enfin, il parle de cette gloire comme de la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Elle était en dehors du temps. Elle appartenait à l'éternité. Il était une personne divine, une personne distincte dans la déité, et il était une personne éternelle. On a dit à juste titre, nous l'entendons s'exprimer dans la pleine conscience d'être le même tant avant que le monde fût que maintenant, et parler d'une gloire qu'il avait comme étant la sienne propre dans la communion éternelle avec Dieu. Versets 6 à 21. Christ glorifié dans les saints. Citation de l'Écriture. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que toi tu m'as envoyé. Moi, je fais des demandes pour eux. Je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'entre eux n'est perdu, sinon le Fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé. Fin de citation. Le désir premier et prééminent du cœur de Christ est d'assurer la gloire du Père. Tel est le grand objet de la première partie de sa prière. Le second désir du cœur de Christ est que lui-même soit glorifié dans ses saints, comme il peut le dire, « Je suis glorifié en eux », verset 10. Ce désir semble être à la base des requêtes de cette nouvelle partie de sa prière. Le Seigneur, dans sa marche sur la terre, avait glorifié le Père dans le ciel. Maintenant qu'il prend sa place dans le ciel, il désire que ses disciples le glorifient dans leur marche sur la terre. Pour réaliser ce désir, dans une grâce très touchante, il place les pieds de ses disciples dans le sentier que ses pieds avaient suivi, devant le Père. Dans les premiers versets de cette partie de sa prière, le Seigneur désigne ceux pour lesquels il prie et présente les traits caractéristiques qui les lui rendent chers et motivent sa prière en leur faveur. Premièrement, il s'agit d'un groupe d'hommes qui ont été tirés du monde et donnés à Christ par le Père, et, ainsi, d'hommes aimés par Christ en tant que don du Père. Deuxièmement, ils sont une compagnie à laquelle le Seigneur avait manifesté le nom du Père. Dans l'Écriture, le nom présente tout ce qu'une personne est. Lorsque Moïse est envoyé par l'Éternel aux fils d'Israël, il objecte qu'ils demanderont « Quel est son nom ?» Cela revient à dire « Si je leur dis ton nom, ils sauront qui tu es. » Ainsi, la manifestation du nom du Père est la déclaration de tout ce qu'est le Père. Troisièmement, non seulement le Seigneur avait fait connaître le Père, mais il avait donné à ses disciples les paroles que le Père lui avait données. Il partageait avec eux les communications qu'il avait reçues du Père, afin que, non seulement ils apprennent qui est le Père, dans tout son amour et toute sa sainteté, mais que, par les paroles, ils découvrent la pensée du Père. Si la parole révèle qui il est, les paroles font connaître son propos et ses pensées. Enfin, ils sont une compagnie qui, par grâce, avait répondu à ses révélations, et ainsi le Seigneur peut dire d'eux « Ils ont gardé ta parole. Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils les ont reçues, les paroles. Ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi. Et finalement, ils ont cru que toi tu m'as envoyé. » Ayant ainsi désigné ceux pour lesquels il prie, dans une grâce touchante, le Seigneur donne à connaître pourquoi il prie pour eux. Pensant toujours au Père, il déclare, comme première raison de prier pour eux, « Ils sont à toi ». Le Seigneur a déjà dit « Ils étaient à toi et tu me les as donnés ». Mais il peut encore déclarer « Ils sont à toi ». Ils n'avaient pas cessé d'être au Père, du fait que le Père les avait donnés au Fils, car le Seigneur ajoute « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ». Cette double affirmation est riche de signification, car, comme a, paraît-il, dit Luther, n'importe qui pourrait à juste titre dire à Dieu « Tout ce qui est à moi est à toi », mais nul être créé ne pourrait continuer en disant « Et ce qui est à toi est à moi ». C'est une parole qui appartient à Christ seul. Puis, comme deuxième grande raison de prier pour ses disciples, le Seigneur ajoute « Je suis glorifié en eux ». Nous sommes laissés dans ce monde pour représenter celui qui est monté dans la gloire, et la mesure dans laquelle Christ est vu dans les siens est celle dans laquelle il est glorifié devant le monde. Enfin, Il y a encore une autre raison qui suscite la prière du Seigneur. Christ n'est plus dans le monde pour protéger les siens par sa présence effective avec eux. Il va au Père, tandis que les siens sont laissés en arrière au milieu d'un monde mauvais qui est Christ. Combien ils auront alors besoin de la prière du Seigneur en leur faveur. Après avoir entendu les raisons de la prière du Seigneur, nous passons dans la dernière partie du verset 11 aux requêtes précises que le Seigneur adresse au Père. Ces demandes sont au nombre de 4. Premièrement, que ses disciples soient gardés dans la sainteté. Deuxièmement, qu'ils soient un. Troisièmement, qu'ils soient gardés du mal. Enfin, qu'ils soient sanctifiés. Nous pouvons tout de suite apprécier la nécessité de ces requêtes, car si Christ doit être glorifié dans les siens, combien il importe qu'il soit saint de nature, uni de cœur, séparé du mal et sanctifié pour être utile au Seigneur. La première requête est que les disciples soient gardés en accord avec le nom du Père Saint. Cela implique que nous nous maintenions dans la sainteté que sa nature réclame. Pierre, dans son épître, doit sans doute avoir eu cette demande à l'esprit lorsqu'il exhortait ceux qui invoquent le Père à être saints dans toute leur conduite. Le deuxième désir du Seigneur est exprimé dans les mots « afin qu'il soit un comme nous ». Il est important de se souvenir que la sainteté vient avant l'unité, car le danger existe de chercher l'unité aux dépens de la sainteté. Nous avons ici la première des 3 unités auxquelles le Seigneur fait allusion au cours de sa prière. C'est essentiellement l'unité des apôtres. Le Seigneur désire qu'ils soient un comme nous. Il s'agit d'une unité de but, de pensée et de propos comme elle existait entre le Père et le Fils. Entre la deuxième et la troisième requête, il nous est accordé d'entendre le Seigneur présenter au Père les raisons de son intercession. Quand il était dans le monde, il avait gardé ses disciples au nom du Père et les avait préservés de toute la puissance de l'ennemi. Maintenant que le Seigneur s'en allait au Père, il nous est donné d'entendre ses paroles, afin que nous sachions qu'il ne cessera pas de nous garder, même si la méthode est différente. Avant de s'en aller au Père, il voudrait nous faire connaître que nous sommes placés sous les soins pleins d'amour du Père. Il s'ensuivrait que les disciples auraient la joie de Christ accomplie en eux-mêmes. Comme le Seigneur avait marché dans la jouissance sans nuage de l'amour du Père, ainsi il voudrait que nous marchions dans la joie de nous savoir les objets des soins du Père qui nous aime de l'amour éternel et immuable dont il aime le Fils. De plus, le Seigneur a donné à ses disciples la parole du Père. La parole du Père est la révélation des conseils éternels du Père. Entrant dans ses conseils, nous buvons au fleuve de ses délices, un fleuve qui va s'élargissant, nous portant tout au long des âges millénaires jusque dans l'océan de l'éternité. Ainsi, comme le Fils, les disciples auraient non seulement la joie de savoir qu'ils étaient les objets de l'amour protecteur du Père, mais ils connaîtraient aussi la bénédiction que l'amour s'était proposée pour eux. Enfin, s'ils jouissaient de la part du Fils devant le Père, ils partageraient aussi sa part en relation avec le monde. Le monde a haï Christ, parce qu'il n'était pas de lui. Il n'existait rien de commun entre Christ et le monde. Il n'était qu'un étranger ici-bas, avec des motifs et des buts totalement étrangers à ce monde. S'il a été incompris et haï, nous serons nous aussi haïs par le monde, si nous suivons son chemin. Ainsi, dans une grâce touchante, les disciples sont placés devant le Père dans la même position que celle qu'avait occupée le Fils devant le Père comme homme sur la terre. Le nom du Père leur est révélé. La parole du Père leur est donnée. Les soins du Père leur sont assurés. La joie de Christ est leur joie. L'opprobre de Christ et son caractère d'étranger est leur portion dans ce monde. Le Seigneur revient maintenant à ses requêtes. Les 2 premières étaient liées à des choses dans lesquelles le Seigneur désire que ses disciples soient gardés, la sainteté et l'unité. Les 2 dernières sont davantage en rapport avec ce dont il désire qu'ils soient préservés. Ainsi, le Seigneur demande que les disciples soient gardés du mal qui règne dans le monde. Il ne demande pas qu'ils soient ôtés du monde. le moment n'en était pas encore venu, car il avait du travail à leur confier dans le monde. Mais, étant mauvais, le monde constitue un danger toujours présent pour les siens. Ainsi, il demande que tu les gardes du mal. La séparation du mal positif n'est pas suffisante. Aussi le Seigneur demande-t-il également notre sanctification. La vérité caractéristique concernant la sanctification est non pas simplement la séparation du mal, mais plutôt la consécration à Dieu et un état qui soit en accord avec lui. La sanctification pour laquelle le Seigneur prie n'est pas la sanctification absolue qui est assurée par sa mort, telle qu'elle nous est présentée dans l'Épître aux Hébreux, où nous lisons « C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. » Hébreux 10, verset 10. Ici, il s'agit de la sanctification pratique par laquelle nous sommes dépouillés de tout ce qui n'est pas selon Dieu dans nos pensées, nos habitudes et notre marche pratique, afin que nous soyons sanctifiés, utiles au Maître. De Timothée 2, verset 21. D'après les paroles du Seigneur, nous comprenons qu'il y a deux moyens par lesquels cette sanctification pratique est produite. D'abord par la vérité. Le Seigneur parle de la vérité comme étant ta parole, c'est-à-dire la parole du Père. En fait, toute écriture est la parole de Dieu. Mais la parole du Père a probablement davantage en vue le Nouveau Testament révélant le nom du Père, la pensée du Père et le conseil du Père. Toute déclaration du nom de Dieu exige une séparation correspondante du monde et une sanctification à Dieu. À Abraham, Dieu a déclaré « Je suis le Dieu Tout-Puissant » et il ajoute immédiatement « Marche devant ma face et sois parfait » Genèse 17, verset 1. À Israël, Dieu s'est révélé comme l'Éternel, et Dieu veillait à ce que les voies des fils d'Israël correspondent à ce nom. Ils devaient craindre ce nom glorieux et terrible. Deutéronome 28, verset 58. Combien plus devrait-il y avoir une sanctification qui corresponde à la pleine révélation de Dieu, comme le Père ? Cette séparation du mal et cette sanctification à Dieu sont en vue du service des disciples, afin qu'ils soient moralement aptes à remplir leur mission. Nous pouvons le déduire des paroles du Seigneur qui suivent « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Le Seigneur avait déjà considéré les disciples comme étant dans la même position que lui devant le Père. Maintenant, il les voit comme ayant la même place que lui devant le monde. Nous apprenons à présent qu'il y a un second moyen par lequel le Seigneur produit notre sanctification pratique. Le verset 17 a parlé de l'effet sanctifiant de la vérité. Ici, le Seigneur dit qu'il se sanctifie lui-même, afin que nous soyons sanctifiés par la vérité. Le Seigneur prend cette place à part dans la gloire, afin de devenir un objet pour attirer nos cœurs hors de ce présent siècle. Nous n'avons pas seulement la vérité pour éclairer notre esprit, sonder notre conscience et nous encourager dans le chemin, mais nous avons, en Christ dans la gloire, une personne vivante pour agir avec puissance sur nos cœurs. Attirés par ses perfections et soutenus par son amour, nous nous trouverons de plus en plus sanctifiés par la vérité qui est présentée d'une manière vivante en lui. À ce point de sa prière, dans une grâce très touchante, le Seigneur pense à tous ceux qui croiront en lui par la parole des apôtres. Il considère les longs siècles qui suivraient et englobe dans ses requêtes tous ceux qui composeront son assemblée. En relation avec ce cercle plus large, le Seigneur ajoute une deuxième requête pour l'unité des siens, unité un peu différente pourtant de la première. Là, l'unité était limitée aux apôtres, et la demande était qu'ils soient un comme nous. Ici, le cercle étant plus vaste, la demande est qu'ils soient un en nous. Il s'agit assurément d'une unité formée par leur intérêt commun dans le Père et le Fils. Quant à la position sociale, aux capacités intellectuelles ou à la possession de biens matériels, il peut y avoir, et il y aura, de grandes différences. Mais le Seigneur demande que, en nous, le Père et le Fils, ils soient un. Cette unité devait être un témoignage au monde, une preuve évidente que le Père avait dû envoyer le Fils pour produire un tel résultat? N'y a-t-il pas eu, au jour de la Pentecôte, une réponse partielle à cette prière, quand la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme? Versets 22 à 26. Les saints glorifiés avec Christ. Citation de l'Écriture. Et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux, quant à ce que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, et le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que toi tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Fin de citation. Dans la première partie de la prière, le Seigneur a prié pour la gloire du Père. Dans la deuxième partie, il pense aux siens et demande que, pendant le temps de son absence, ils soient gardés pour sa gloire, afin qu'ils soient glorifiés dans les saints. Dans cette dernière partie, le Seigneur passe en pensée à la gloire à venir et demande que les siens soient glorifiés avec lui. Ayant ce grand but devant lui, le Seigneur peut dire « La gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée ». La gloire qui est donnée à Christ comme homme, il l'assure aux siens et la partage avec eux. Cette gloire, il l'a donnée aux siens afin qu'ils soient un. Cette unité est si parfaite que seule l'unité entre le Père et le Fils peut lui servir de modèle, comme le Seigneur le déclare, afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Les paroles qui suivent nous disent comment les saints seront consommés en un, et aussi le grand but pour lequel ils sont faits un. Le Seigneur indique comment l'unité est produite en disant « Moi en eux et toi en moi ». Cela nous conduit jusqu'à la gloire lorsque Christ sera parfaitement manifesté dans les saints, de même que le Père est parfaitement manifesté dans le Fils. Qu'est-ce qui a ruiné l'unité et dispersé et divisé les saints de Dieu sur la terre? N'est-ce pas l'admission dans notre vie de tant de choses qui ne sont pas de Christ? D'ailleurs, même si tous les saints sur la terre, à un moment donné, avaient été l'expression de Christ seul, l'unité dont parle le Seigneur dans ces derniers versets n'aurait pas encore été montrée. Rien d'autre que la compagnie tout entière des saints dans la gloire ne pourra manifester d'une manière adéquate la plénitude de Christ. Éphésiens 1, verset 23. Alors Christ, et Christ seul, sera vu dans les siens. Nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Les saints, si longtemps dispersés et divisés sur la terre, seront consommés en un dans la gloire. Ils exulteront ensemble avec chant de triomphe, car ils verront face à face. Ésaïe 52, verset 8. Le grand but de cette unité parfaite est la manifestation devant le monde de la gloire de Christ comme l'envoyé du Père et de l'amour du Père pour les disciples. Lorsque le monde verra Christ manifesté en gloire dans les siens, il connaîtra que celui qui l'a méprisé et haï était véritablement l'envoyé du Père, et il réalisera que les rachetés de Christ, qu'il a rejetés et persécutés, sont aimés par le Père du même amour que le Père a pour Christ. Il existe en outre une gloire bien supérieure à la gloire qui sera manifestée au monde. Et, au-delà de la bénédiction millénaire de la terre, il se trouve un cercle intime de bénédiction céleste. Dans cette sphère intime de bénédiction, les saints auront leur part, car le Seigneur peut dire « Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. » Très tôt dans le cours de ces entretiens, le Seigneur avait révélé le grand désir de son cœur de nous avoir auprès de lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Maintenant, une fois encore, Alors que la prière touche à sa fin, ce désir de son cœur nous est rappelé quand nous entendons le Seigneur dire « Je veux que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi ». Mais si nous devons avoir le grand privilège d'être avec lui là où il est, il subsistera toujours une gloire personnelle appartenant à Christ que nous contemplerons, mais que nul ne peut partager. Christ, comme Fils, aura toujours sa place unique auprès du Père. Il y a une gloire qui est propre à Christ. Il y a un amour qui est propre à Christ. L'amour dont il a joui avant la fondation du monde. Et il y a une connaissance qui lui est propre, car le Seigneur peut dire « Père juste, et le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. » Les saints connaîtront que celui à qui appartient cette gloire particulière, cet amour, cette connaissance propre, est celui qui a été envoyé par le Père pour faire connaître le Père. Ils sont ainsi distingués du monde qui ne discerne pas que le Fils était l'envoyé du Père. Aux siens, le Seigneur fait connaître le nom du Père, et la déclaration du nom du Père révèle l'amour du Père, afin que la conscience de l'amour du Père, que le Seigneur a toujours connu et goûté dans son chemin, puisse être connue et goûtée par ses disciples. De plus, si cet amour est en eux, Christ, celui que le Père aime, aura sa place dans leurs affections. Il sera en eux. Ainsi, en écoutant ces dernières paroles, nos pensées restent remplies du grand désir de son cœur que Christ soit dans les siens, moi en eux. Sans nul doute, ce désir de son cœur sera accompli dans la gloire à venir. Mais ne pouvons-nous pas dire que la grande pensée des derniers entretiens, comme aussi de la dernière prière, est que Christ soit vu d'une manière vivante dans les siens dès maintenant ? À cet effet, nos pieds sont lavés, notre cœur est réconforté, notre vie est rendue propre à porter du fruit, et notre esprit est enseigné. Voilà pourquoi le Seigneur nous permet d'écouter sa dernière prière qui se termine par ces mots « Moi, en eux ».